pleinement profiter des échanges avec nos invités et nos étudiants. Merci Christophe, merci Thierry pour cette ouverture tout à fait claire et pour votre confiance aussi depuis le début. Je vais évoquer un certain nombre d'étudiants et je tiens à les remercier aussi, parce que sans le travail collectif qu'on a mené tous ensemble et qu'on mène tous ensemble, on ne serait pas aujourd'hui. Je tiens aussi à remercier Sébastien Jarbat-Effner et Keshia Alberdi-Messori, qui sont des collègues au sein de l'Église sur les Smartville, avec qui on a aussi des échanges tout à fait stimulants, à la fois de réflexion et d'action commune. Je vais vous dire un mot sur la méthode pour cette conférence inaugurale, puis un mot sur la balistique des idées, une formule que j'ai. Faut que je parle plus fort. D'accord. Donc un mot de méthode, et puis un mot de balistique des idées, ça me plaît, plutôt que de dire un agenda. C'est Jordan qui m'a proposé cette formule dans le cadre de ses travaux de doctorat. Donc la méthode, vous avez trois petits dessins sur cette première planche. Et en fait, l'idée, c'est de cheminer ensemble de citation en citation. Je n'ai pas commencé par le titre que j'aurais dû. Réseau électrique des sociétés en transition, on commence à avoir une bonne idée avec les éléments fournis par Thierry et Christophe. Et comme l'a évoqué Christophe, le fruit de nos travaux préparatoires, c'était de penser au prisme de la néo-électrification. Et comme on avait commencé lors du premier anniversaire l'année dernière à réfléchir, à être invité à cette réflexion par plusieurs auteurs. Le premier, donc, c'est Manuel Lima, que j'avais déjà cité à la conférence inaugurale, qui non seulement donc, explique des choses très simples, hein, nous agissons, nous vivons dans des réseaux, il est donc raisonnable de penser les réseaux, mais qui s'appuie aussi sur les travaux de l'américain scientifique Warren Weaver, qui avait écrit en 1948 un article intitulé « Science et complexité », où il divise l'histoire de la science moderne en trois phases. La première, que vous voyez donc à gauche, c'est du 17e au 19e, mais c'est celle qu'il appelle la période des problèmes de simplicité, où la plupart des scientifiques de l'époque étaient en train de comprendre l'influence d'une variable sur l'autre. La deuxième phase, qui s'est déroulée dans la première moitié du 20e, vit arriver les problèmes de complexité désorganisée. À cette époque, les chercheurs commençaient à concevoir des systèmes avec un nombre considérable de variables, mais la manière dont beaucoup de ces variables interagissaient était considérée comme aléatoire, voire chaotique. Et la deuxième étape, la dernière étape, définie par Weaver, qui a commencé donc dans la deuxième partie du XXe siècle et qui continue à ce jour, est déterminée par les problèmes de complexité organisée. Non seulement nous prenons en compte les systèmes complexes, avec un grand nombre de variables, mais aussi le fait que ces variables sont fortement connectées entre elles et interdépendantes. Nos réseaux électriques, je pense, sont un bel exemple de complexité organisée. Et vous pourrez noter que même quand on va d'un point à l'autre, ça ne tire plus vraiment pour un. Deuxième élément de méthode, sur la méthode incitative, en fait, elle m'a été inspirée par Jean-Claude Amezen, un grand scientifique, médecin immunologiste et chercheur en biologie, président du comité consultatif national d'éthique de 2012 à 2016, écrivain aussi. Il invite chacun d'entre nous, auditeurs de France Inter ou lecteurs, à monter sur les épaules de Darwin, selon la politique formule que lui a inspiré Isaac Newton, pour un voyage à la rencontre d'un univers toujours plus riche et mystérieux qui nous a fait naître et que nous n'aurons jamais fini d'explorer, à la rencontre de nos cousins, les oiseaux, les fleurs, et de nos lointaines parentes, les étoiles. Un voyage à la rencontre de nous-mêmes aussi, à la découverte de la manière dont nous déchiffrons le monde, à la recherche de notre mémoire. Les sciences bouleversent le regard que nous portons sur le monde, mais elles ne peuvent à elles seules rendre compte de la splendeur de ce que nous appelons la réalité. Il nous faut aussi la comprendre et la ressentir, mêler l'émotion et la raison. Les arts et les sciences, montés sur les épaules des savants, des penseurs et des poètes, sur les épaules des géants, pour voir plus loin et redécouvrir ensemble notre commune humanité. La balistique des idées maintenant. Il y a 5 temps, avec une tentative de synthèse ouverte sur donc la néo-électrification. Penser au prisme de la néo-électrification pour repenser le sens du service public des réseaux électriques au cœur des transitions énergétiques et numériques. Nous commençons par partager l'interrogation d'Alain Bertrand et Patrice Carré dans la préface de leur ouvrage paru en 2016, La vie électrique, histoire et imaginaire, 18e, 21e siècle, et l'électricité dans tout ça. Nous prendrons ensuite le temps de revenir sur le sens des mots électrification avant de voir en quoi elle pourrait être nouvelle, et de son corollaire très français de service public.
Nous retiendrons ensuite les éléments saillants dans les travaux menés depuis 2 ans par nos jeunes chercheurs pour tester l'hypothèse que les transitions écologiques et numériques pourraient-elles être les habits neufs de l'électricité, avis aux amateurs de pompes. Pour tester la robustesse de cette hypothèse, nous la confronterons aux 3 thèmes dominants du professeur François Caron, cher à l'esprit et au cœur de Christophe Gounod. Dans sa conclusion en 1987 des actes du 4e colloque de l'Association pour l'histoire de l'électricité en France, intitulé « L'électricité et ses consommateurs ». 3 thèmes qui, pour moi, sont toujours opératoires. Les utopies nécessaires, la construction de la demande réelle, c'est François Caron qui l'a éliminé, et les contraintes d'exploitation. En prenant appui, enfin, sur la citation du président de l'EDF, Marcel Boiteux, en ouverture de ce colloque, nous explorerons la richesse du vocabulaire qui traduit l'ambiguïté des situations et leur évolution historique. Historicité, 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 ça qui pourrait le faire, sautant comme un cabri, je le confonds. Pour poursuivre la réflexion préalable qu'exige la notion même de consommateur, ça aussi c'est de Marcel Boiteux. Il nous restera donc alors à voir dans ces synthèses ouvertes les apports de la noélectrification. Donc, et l'électricité dans tout ça. La vie électrique, donc d'Alain Beltrin et Patrice Carré, c'est un classique pour tout citoyen qui s'intéresse à l'histoire de l'électricité, édité d'abord sous le titre La fée et la servante en 91, et réédité donc en 2016 sous ce titre nouveau, en forme de clin d'œil explicite au livre d'anticipation de Robila, paru en 1892. Donc, quelques extraits de cette préface pour bien démarrer. En 25 ans, donc entre 1991 et 2016, l'environnement dans lequel nous vivons a été considérablement bouleversé. Progressivement, l'horizon planétaire a révélé nos failles béantes. Le gaspillage des ressources finies et la dégradation naturelle, la responsabilité envers la génération future est devenue un impératif. Dès lors, tout le monde est désenchanté, le problème ne fait plus rêver, les experts sont mis en doute. L'avenir est devenu menaçant. La confiance est déplacée, en tout cas dans un discours de plus en plus prégnant, vers des structures légères, décentralisées, vers les lanceurs d'alerte, vers un surcroît d'informations venu des nombreux horizons offerts par Internet et les réseaux sociaux, Thierry et Christophe les évoquaient. Et l'électricité dans tout ça. Véritable baromètre de nos activités et de nos espoirs, elle est passée par toutes les couleurs de nos attentes et de nos contradictions, d'où la nécessité de l'accompagner dans ces dernières, mais sûrement pas ultimes, mutations. C'est bien un terme clé qu'on a mis au fronton de cette journée. Inévitablement, l'historiographie sur le sujet a évolué, l'histoire culturelle et technique s'est considérablement développée. Quittant le champ de l'histoire, nous sommes rendus chez nos voisins sociologues, anthropologues, philosophes, géographes, chercheurs en sciences politiques ou en sciences de l'information et de la communication. Depuis le mi-temps des années 90, ce sont essentiellement ces disciplines qui interrogent les technologies et qui questionnent les transformations de la société dans laquelle nous vivons. Nous ont permis de remettre en cause la doxa d'innovation naturellement porteuse de progrès et d'une société s'adaptant sans œuvre aux transformations portées par la technique. De jeunes historiens aujourd'hui relaient leurs travaux dans une perspective de longue durée. Certes, nous n'avons pas les réponses aux questions d'un monde complexe, mais la perspective de long terme propre à l'histoire permet d'étayer les hypothèses qui nous conduisent à affronter un avenir riche de toutes les opportunités. Le professeur Christophe, Thierry et moi avons commencé à réfléchir, à désirer cette création de chair même année 2016, en adoptant donc le parti original sur les réseaux électriques. Il s'avère que nous sommes en phase avec ces points introductifs par Beltrin et Carré, à la fois sur le diagnostic nocif et les modalités d'action, Christophe a évoqué, fait confiance à des jeunes historiens, historiennes, travaille en manière interdisciplinaire avec d'autres jeunes sociologues, médiateurs des sciences, s'inspirant de travaux aussi d'économistes, anthropologues, géographes, philosophes ou encore psychologues. On a eu une web designeuse qui nous rejoint pour travailler avec les bénéficiaires du multimédia et d'Internet. On revient un peu vers Manuel Liman. Et vers les scientifiques de la donnée pour élargir encore l'efficacité de la recherche-action de la chaire au plus près des attentes de nos mécènes partenaires sur les différents territoires de Nouvelle-Aquitaine. Avant d'extraire des éléments saillants, donc, on va maintenant revenir sur les mots-clés électrification et scientifique publique. Avec la vie électrique et l'électrification du Grand Sud-Ouest de la fin 19e-1946 de Christophe Gounod, on a des sources particulièrement précieuses pour comprendre l'électrification de la France et de notre région. Christophe, dans son ouvrage, avait cité Joachim Estrade, dirigeant de la société méridionale de transport de force. Il qualifie le principal pionnier de l'électrification régionale avec une action multiforme qui recouvre presque tout le cadre chronologique de l'étude, et qui s'individualise par sa dimension globalisante, cherchant à créer un système électrique cohérent et à l'intégrer dans l'économie générale. La clé du problème de l'électricité est exclusivement dans le développement aussi étendu possible de la consommation, déclaré donc Joachim Strauss en 1911. On va poursuivre la réappropriation de l'électrification avec un ouvrage que j'ai déjà cité, L'électricité et ses consommateurs, publié en 1987. Pour moi, c'est un ouvrage de réflexivité collective historique à laquelle donc, Christophe a participé et donc, qui a été ouvert par le président de l'EDF à l'époque, Marcel Boiteau. Il disait que la notion même de consommateur exige une réflexion préalable. La richesse du vocabulaire traduit l'ambiguïté des situations et des révolutions historiques dont l'électricité et les sociétés ont eu tour à tour des abonnés, des utilisateurs, des clients, milieu de tout temps des autoproducteurs. En fait, l'histoire de la consommation se situe au cœur même de l'évolution de l'électrification et on définit les phases. Sauf que c'était pour en donner. La secrétaire générale du colloque, Fabienne Garbo, avait travaillé non pas à partir de statistiques, mais à partir de littérature de vulgarisation, à partir desquelles elle a identifié trois périodes. Les années cruciales pour le passage d'un ensemble d'inventions diffuses, qu'on fait un deuxième dessin de mes premiers schémas, à un nouveau système technique cohérent. C'est donc les années 1878-1890. Ces tableaux d'invention en marche accordent peu de place à l'usager et la parole reste à l'inventeur. À l'habiller de merveilleux, comme ils l'ont fait, les vulgarisateurs ont accompli cette tâche fondamentale pour le passage de l'innovation à l'usage du quotidien, qui est la préparation des esprits à la consommation. Le public a été persuadé que l'électricité allait changer sa vie quotidienne par des objets révolutionnaires, et donc magiques, et qu'elle serait la marque déterminante de la modernité. À partir de 1890 jusqu'en 1920, il y a un autre type de vulgarisation, qui a une traité pratique du sosie, du bricoleur, c'est un peu le do-it-yourself avant l'heure. Et elle relève aussi quatre figures de consommateurs en face de ces typologies d'usage qui restent malaisées à évaluer. C'est l'original passionné, souvent l'ingénieur, le riche personnager primordialité qui est lionné par le goût de l'excentrique et de l'ultra-moderne et la volonté de participer au progrès industriel décisif et sélectifié. Le troisième choisit l'électricité pour les avantages techniques et commerciaux, qu'il soit un petit industriel ou un commerçant en ville qui veut investir pour attirer une clientèle plus vaste. Enfin, le dernier est un bricoleur qui n'a pas forcément beaucoup de ressources, mais qui pallie ce manque de ressources par son habileté et par acquisition de matériel au meilleur coût. Donc, avant de passer à ce qui est le service public de l'électricité, finissons de bien comprendre ce qu'est l'électrification grâce à la conclusion proposée par François Caron, professeur à la Sorbonne. Aborder l'histoire d'une filière technologique sous l'angle de ses utilisations n'est pas une démarche habituelle à l'époque. Les voies qu'emprunte le progrès technique sont tracées par les besoins du client. C'est-à-dire des consommateurs dont on pourrait dire que les désirs viennent des ordres, même si ces désirs exigent d'être sollicités. Pour essayer de simplifier, donc, de manière excessive nos débats, il nous semble possible de regrouper autour des trois thèmes dominants, celui des utopies nécessaires, servies par les trois types d'auteurs de vulgarisation analysés par Fabien Carbo, celui de la construction de la demande, c'est bien François Caron, demande réelle, et celui des contraintes d'opération. Donc c'est ces trois thèmes qui constituent un complexe organisé qui nous semble toujours opératoire, qui vont nous permettre d'aller sur la suite, à savoir la découverte du service public. Donc 30 ans après le colloque sur l'électricité et ses consommateurs, soit en 2017, François-Marie Poubeau, chercheur au CNRS et collègue de Côte-d'Amérique qui est avec nous dans la salle, publie l'ouvrage L'électricité et les pouvoirs locaux en France, 1890-1980, une autre histoire du service public. Dans la commission Histoire de l'énergie, avec le soutien financier du comité d'histoire de l'électricité et de l'énergie présidé par Alain Dufour, et de l'association académique pour la recherche historique et sociologique dans le domaine de l'énergie, dont, si je ne m'abuse, Christophe est le président du conseil scientifique. Donc, les contraintes d'exploitation, telles que formulées par François Caron, elles sont rappelées par François-Marie Dufour, illustrées à l'époque des années 1900-1930, c'est le profond bouleversement technologique et donc économique. On peut rappeler sur le plan technique que la contrainte majeure pour les industriels à l'époque et encore aujourd'hui, c'est que l'électricité ne se stocke pas. Elle impose la nécessité de faire correspondre à tout instant l'offre et la demande. Et donc, l'édification d'un système interconnecté constitue l'une des réponses à la nécessité d'adaptation constante entre appareils productifs et demandes de consommation. Elle agit comme une mutuelle d'assurance contre les imprévisions, en jouant sur la complémentarité spatiale ou temporelle et sur la complémentarité entre sources de production. Tout ça, c'est encore vrai. Donc, la progression des interconnexions techniques a mené une concentration industrielle, à l'image de la création de l'Union des producteurs d'électricité des Pyrénées orientales, analysée par Christophe Blum. Et cette concentration industrielle doit être pensée de manière conjointe au mouvement d'interconnexion que nous venons de décrire, étant à la fois effet et cause de son succès. Les économistes connaissent bien ça, c'est les rendements de croissance qui expliquent la propension à la concentration. Donc, avec la reconfiguration du secteur électrique autour d'un oligopole, un rééquilibrage, en fait, voire une inversion des rapports de force s'opère entre les industriels et les collectivités. La nouvelle donne est bien favorable aux communes qui éprouvent une difficulté récurrente à exercer le contrôle effectif des concessions. Parce que de fait, les communes ont acquis ce pouvoir depuis la loi très importante pour notre secteur, la loi du 15 juin 1906, qui généralise le recours à la concession, attribuant une compétence claire à la commune en matière de gestion des réseaux d'énergie électrique. Et donc, c'est le début du service public. En fait, les travaux des historiens, c'est toujours en fonction de la compo qui s'exprime, ont bien montré l'effervescence des initiatives publiques, notamment locales, au fur et à mesure que se développent les premiers réseaux. Dans l'électricité, diverses formes d'appropriation collective sont alors envisagées, témoignent de philosophies d'action différentes, sous l'angle de l'organisation économique, la justice sociale et la solidarité territoriale. Pour une autorité publique, contrôler le secteur de l'électricité, c'est trois choses. C'est d'abord être en mesure d'imposer une conception des relations entre économie et politique, en promouvant un modèle de gestion privilégié, soit public, soit privé, centralisé ou non, et ce faisant, de justifier l'existence d'une forme de supervision collective d'un bien général. Je pense qu'on y reviendra avec la troisième table ronde. C'est ensuite se placer en situation d'arbitrer les conflits relatifs au partage des revenus qu'ils génèrent entre usagers, salariés et propriétaires d'entreprises. C'est enfin, pour l'autorité publique, façonner de nouveaux rapports sociaux et notamment perpétuer des formes de solidarité entre usagers en organisant notamment des transferts financiers entre territoires. Donc, il en vient à la définition qui est affichée à l'écran, service public de l'électricité, l'ensemble des institutions, acteurs, instances, procédures, règles, valeurs et dispositifs socio-techniques qui sont mobilisés dans la gestion de la distribution publique d'électricité en relation avec les autres segments de la chaîne électrique que sont la production et le transport. Donc, cet agrégat est là, en fait, pour prendre et faire appliquer un certain nombre de décisions relatives à la fourniture d'énergie électrique, la fixation des tarifs aux usagers, la définition des volumes et la ventilation des investissements dans les réseaux, la répartition des bénéfices d'exploitation, les choix d'organisation. Bref, c'est encore une fois un joli complexe organisé, comme aurait pu dire M. Weaver, auteur de Science et complexité en 1948. Les transitions écologiques et numériques maintenant. C'est normal, j'en ai plus. Donc, transition écologique et numérique. Christelle Assemont nous parlera cet après-midi de l'injonction qui est maintenant au cœur de la moralisation de nos comportements. Pour mémoire, les auteurs qui seront invités là, les servitudes de la puissance ont formulé cette injonction à l'outil, transition énergétique, telle l'injonction à laquelle tout humain doit se plier, en 2013. Un de nos étudiants bénéficiaire de la première bourse en 2017 à Saint-Garcia a travaillé sous la direction de Christophe sur l'archéologie de ce concept qu'il a évoqué. Ce qui me semble intéressant à relever dans ses travaux, c'est que dans les débats contemporains sur l'environnement, la transition s'est imposée comme une évidence, mais elle s'avère en fait comme une notion plus floue qu'il n'y paraît. Et une lutte d'énonciation s'est mise en place, une légitimité est à construire pour ces fabricants de scénarios, confère un vulgarisateur de Fabienne Carver. La transition numérique, pour aller à l'essentiel, c'était notre président Philippe Monobourg s'exprimant en 2016, qui voyait en fait la transition numérique comme une opportunité et Enedis comme un opérateur big data qui gérera d'ici quelques années 35 millions de capteurs. C'était dans le journal du Net et la réaction de certains opposants a été de dire, la vraie explication du point de vue, c'est Big Data is watching you. Est-ce qu'on est dans l'imaginaire de l'électricité ou est-ce qu'on est dans les utopies dystopies qui relèvent plutôt, en l'occurrence, de la politique? Alors, il n'y a pas de son, c'est dommage.
A garden of pure ideology. where each worker may bloom, secure from the pests, obeying contradictory reports. Unification of the Norse is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail.
On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984.
Apple va introduire sur le marché Macintosh. Et 1984 ne sera pas comme 1984. Voilà. Première fois que Steve Jobs communique sur Macintosh. Et la vie reprend avec le Super Bowl. Autre imaginaire, celui ramassé dans une formule que François-Marie Poupeau a mis en exergue de son ouvrage, celle de Gaston Bachelard, dans La Flamme de Chandelle. Nous sommes entrés dans l'ère de la lumière administrée. Notre seul rôle est de tourner un commutateur. Nous ne sommes plus que le sujet mécanique d'un geste mécanique. Nous ne pouvons pas profiter de cet acte pour nous constituer en un orgueil légitime, comme sujet du verbe allumer. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un autre homme académique au départ qui a mis cette citation de Gaston Bachelard dans son rapport de thèse. C'est Éric Potard, qui est aujourd'hui sociologue au Conseil, à la Commission générale du développement durable, donc au ministère de l'écologie. Mais mon analyse personnelle, c'est que François-Marie Poupeau l'a mis surtout pour l'adjectif administré. Et en l'occurrence, Éric Potard, qui a fait sa thèse sur vers la sobriété énergétique et qui est beaucoup plus dans la technocritique sur la technostructure, l'a mis pour l'imaginaire de la dépossession. Et je vais me permettre, puisque maintenant on a changé de slogan, et je pense que RDF est devenu une liste, a bien compris le changement d'époque et d'imaginaire, à la création de RDF, la baseline, comme on dit en bon français, c'était « Et l'électricité vient à vous ». On est exactement, je pense, encore dans la queue de comète de cet imaginaire du bouton sur lequel on appuie. Aujourd'hui, Enedis, enfin, depuis 2016, a comme slogan « Et l'électricité en réseau, pardon ». Donc je pense qu'Enedis a fait 5 buts en termes d'imaginaire sur le 21e siècle et donc le big data. La construction d'un monde réel de François Caron. Ça, c'est un rapport de l'IRI. En 2015, c'était dans les travaux préparatoires à la loi sur la transition énergétique. Et la croissance verte, la demande d'électricité, clé de voûte de la transition du système électrique. La France ne s'est pas dotée d'objectifs ni de trajectoires chiffrées concernant la consommation d'électricité. Parce qu'en fait, c'est un sujet très complexe entre l'approche industrielle, la baisse des économies d'énergie, en particulier sur le fossile, mais on sent bien une électrification des usages. Alors, de tout temps, hein, depuis les débuts de l'électrification du 19e, il y a substitution d'électricité à d'autres sources. Donc en fait, on ne peut pas... je pense qu'on aura débat d'ailleurs avant la fin de la matinée avec M. Ben sur la sobriété énergétique et toute sa richesse potentielle. Mais en tout cas, il n'y a pas d'évidence sur la baisse de la consommation d'électricité. Les contraintes d'exploitation, troisième élément après les utopies nécessaires et la construction de la demande. Ça, c'est un petit graphe qui, je pense, est assez explicite sur le développement des raccordements. Sur le réseau de distribution, ou en l'occurrence, donc ça c'est un extrait du site de l'ELIS, dans le contexte de transition énergétique, la part des énergies renouvelables gagne du terrain. On raconte donc de plus en plus d'énergies renouvelables sur le réseau. Donc ça aussi, les contraintes les contraintes d'exploitation. Sur la construction de la demande réelle, toujours, ça c'est juste un graphe extrait du rapport d'Éric Potard que j'ai fait tout à l'heure. Coproduit avec l'ADEME en 2018, la sociologue Florence Martin, pour ceux qui peut-être la connaissent. C'est juste un graphe qui montre l'augmentation de la consommation des ménages sur donc, les appareils électriques. On voit des ordinateurs, des appareils électroménagers, des téléviseurs, des téléphones mobiles. Donc c'est tout ce qu'on pourrait appeler dans notre domaine d'électricité spécifique. Donc c'est des usages nouveaux. Donc on est bien dans la continuité de l'électrification. Des usages. Du coup, j'arrive sur la richesse du vocabulaire, avec, notamment, c'est évidemment dans le livre, je dirais, que je vous recommande, Énergie pour des réseaux électriques solidaires, d'Alain Beltran, Michel Dernevet et Fabien Roch, ils évoquent les consommateurs. Et on s'est intéressé, dans le cadre de la chaire, un peu sur le modèle de l'archéologie du concept de transition énergétique. Quelle est l'archéologie du concept de consommateur? Et en l'occurrence, en tout cas, parmi les sources qu'on a trouvées, il y a cette première thèse de Nils Oskaglar Toulouse, en sciences de gestion, donc en 2005, qui s'est intéressée à l'apport du concept d'identité à la compréhension d'un comportement de consommation responsable. Et pour tout vous dire, moi je suis resté un peu sur ma faim dans le domaine électrique. Mais ce qui était plus intéressant, quand on se souvient de ce qu'a dit Marcel Boiteux sur les ambiguïtés autour du vocabulaire et leur historicité, c'est Géraldine Fléger qui a fait une thèse, donc voilà, c'est en 2003, intitulée « Consommateur, client, citoyen, usager dans les nouvelles régulations du service des réseaux, les cas de l'eau, de l'électricité et des télécommunications en Bretagne. » L'ambition de la thèse, donc, c'est d'appréhender en dynamique les dosages, les glissements et les contradictions entre les figures du consommateur, du client et du citoyen. Les réformes, ça, donc, c'était la dérégulation. Et je pense que la réflexion qu'elle a ouverte à cette époque, je pense qu'il y a matière à travailler au niveau de la recherche pour la poursuivre. On a tous été, de toute manière, nés dans le guidon depuis 2003. Qui, pour les entreprises, a s'approprié la notion de consommation et client, hein, garantie des services, côté EDF. Qui, du côté des consommateurs, a se structuré et s'émancipé de la représentation en tant qu'usager par les institutions avec les actions de consommateurs. Et donc, elle conclut, en fait, ses travaux, en validant l'hypothèse que la figure de l'usager s'est fait dépasser par la figure du consommateur, et qu'il y a en fait une résistance de la figure du citoyen. Donc, quand on est avec le terme de consommateur, on est dans le monde de la consommation. Est-ce qu'on a des outils opératoires pour réfléchir les enjeux d'éco-citoyenneté? C'est pas sûr. Éric Potard, on y arrive, ou on y revient plutôt, vers la sobriété énergétique, donc 2009, quelques années après. Le fonctionnement global du macro-système technique, donc ça c'est une référence explicite à Alain Grand, sur l'analyse de ce qui a été une autre manière que j'ai tâché de synthétiser à travers les propos et de Marcel Boiteux, Fabienne Cardot et François Caron. Donc le fonctionnement global du macro-système technique, l'approvisionnement électrique, reste inconnu par l'immense majorité de la population. Rares sont ceux qui peuvent hiérarchiser les postes de consommation électrique par ordre d'importance. Donc ça c'est une des hypothèses aussi de travail, et on va en arriver à la suite tout de suite, c'est que toute l'analyse qui a été faite jusque-là, elle s'est faite de manière qualitative, avec tout le respect évidemment que j'ai pour tous ces travaux qui ont été menés. Pourquoi je dis qualitative? Parce qu'on continue notre progression dans les travaux d'analyse sociologique. Il y a un excellent rapport de thèse de Morgane Innocent qui a travaillé dans le cadre du projet Solen, le projet Smart Green, donc avec 900 familles sur 17 000 familles équipées du compteur Linky entre 2012 et 2016-2017. Elle a travaillé à comprendre le sens que le consommateur donne à ses actes quand il pratique la maîtrise de sa consommation électrique au sein de son foyer. Et la nouveauté très forte, c'est que les consommateurs étaient équipés de compteurs Linky et ils étaient accompagnés de diverses manières, y compris sur la visualisation. Donc elle a constaté, à partir de ses travaux, que le sens de la pratique évolue et s'enrichit quand elle s'intensifie. Deux leviers principaux se distinguent, la valorisation donc à travers la conséquence sur la gestion du foyer, ce qui est d'une certaine manière une forme d'évidence, mais qui est documentée dans ses travaux, et le bien-être de type eudémonique retiré de cette pratique par l'individu. Eudémonique, si j'essaye de le synthétiser, c'est que ça fait sens. Et on est bien loin de la valeur hédonique. Il n'y a aucun plaisir à maîtriser sa consommation d'énergie. En tout cas, c'est ce que j'en ai retenu. Pour autant, donner du sens, je pense qu'on est, parfaitement dans ce que évoquait Alain Beltran et Patrice Carré dans leur préface, c'est-à-dire que on n'est plus tellement dans la recherche du confort, qui du luxe est devenu une sorte de valeur commune, y compris pour les gens en situation de précarité énergétique et donc un accompagnement social. Là, aujourd'hui, pour que ça fonctionne, il faut trouver du sens. Et pour trouver du sens, on peut compter sur les nouvelles technologies. je reviens à Manuel Lima. Ça suppose évidemment un peu de travail pour arriver à s'approprier et même problématiser la complexité organisée. Mais j'ai envie de faire un petit jeu de mots, ça sera ma manière de conclure. Donc j'aurais pu intituler cette intervention « Incitation à réfléchir au prisme de la réflexion » avec toute la richesse du mot « réflexion ». En 2013, le mot « selfie » il est rentré dans le dictionnaire anglais d'Oxford pour une simple raison, c'est qu'en 2012, il avait fait plus 17 000% dans l'utilisation des locuteurs. Et le journaliste Axel Villarford, la tête au carré sur France Inter, décidément, je crois, service public, un autre service public, il s'est amusé à retrouver le premier selfie de l'histoire, 1839, Monsieur Cornelius Chimiste de son État, donc il a évidemment maîtrisé ses innovations technologiques de la photographie. Réflexion, réflexivité, pour ceux qui étaient là à la conférence inaugurale de la chaire I7, le 14 avril 2017, j'avais déjà proposé cette formule de Dante, avec un petit clin d'œil, puisque la Divine Comédie se finit aussi un 14 avril. La cause est en vous-même. Si le monde d'aujourd'hui déraille, la cause est en vous-même, et c'est en vous qu'il faut la chercher. La réflexivité, elle n'a pas attendu le Big Data et les selfies. Je reviens à Steve Jobs. En 1984, il n'a pas fait que présenter les ordinateurs Macintosh. Il avait aussi présenté son premier iPhone, Apple Communicator. Et là, ça me permet de faire le lien directement avec les technologies réflexives et nos smartphones, puisque la collègue de Bastien Tavernier, Laura Braïta, a écrit en 2013, il s'est passé pas mal de choses en 2013, hein, un papier très intéressant intitulé « Les smartphones au Quantified Self, technologie réflexive et gouvernement par les traces, une étude des cas de la consommation électrique en milieu domestique ». En l'occurrence, c'est un accompagnement sociologique comme Organisation a fait à Lorient, mais c'était en région PACA. Donc, j'ai extrait cette partie-là, donc cette citation. « Les technologies réflexives proposent une régulation en douceur et par le bas, qui fait en apparence la part belle des utilisateurs rassemblés et mis sur un pied d'égalité dans un espace de visibilité mutuelle de leur pratique de consommation et qui relève de ce que l'on pourrait appeler un gouvernement démocratique par les traces. Les guillemets sont des auteurs. » L'iPhone, ça sera, c'est mon slide de conclusion. Je suis dans les temps. Alors c'est un livre qui n'est pas encore traduit en français, d'un avocat britannique, mais brillant, puisqu'il a fait ses études entre Oxford et Harvard. Il a fait de la politique, mais aussi de l'histoire. Et j'ai retenu qu'une seule phrase, parce qu'elle me fait furieusement penser à la gouvernance d'électricité, c'est « Digital is politics ». Le digital, c'est de la politique. Et en fait, c'est exactement ce qu'on a vécu depuis un peu plus d'un siècle sur l'électricité. Sauf qu'aujourd'hui, l'imaginaire qui structure, que ce soit en utopie ou en dystopie, notre capacité de projection. George Orwell, je me permets, ça c'est pas écrit, mais il n'y a pas non plus besoin que de l'écrit, j'ai bien appris avec Christophe. Il était très admiré par un homme qui aimait profondément le conte d'Andersen, Les Habits de l'Empereur, qui a été une de mes sources aussi, mais qui est un peu comme l'électricité, on va dire, le vêtement invisible de cette présentation. Donc, Simon Leys, il a écrit Les Habits Neufs du président Mao en 1987, donc la même année que l'électricité et ses consommateurs, les dates toujours importantes dans une progression et une compréhension historique. Les Habits Neufs de l'Empereur, donc, il s'inspire du conte d'Andersen. Et en l'occurrence, il avait lu aussi George Orwell. Il a écrit un livre même sur lui qui s'appelle George Orwell, L'horreur de la politique. Et je citerai qu'une phrase de Simon Leys, c'est « Si les gens ne voient rien, c'est pas qu'ils n'ont pas vers Dieu, comme vous et moi, c'est qu'ils n'ont pas d'imagination. » On l'a bien vu, imaginer à toute son importance au cours de l'histoire et de la compréhension de l'électricité. Donc là, ce qui nous attend, collectivement, y compris dans le domaine de l'électricité, c'est d'arriver à réguler le digital. Sauf qu'il y a un changement d'échelle, puisque là où, à l'échelle nationale, les collectivités locales et l'État ont su trouver des compromis, notamment avec la structuration des collectivités et la création de la Fédération nationale des collectivités concédantes et des régies en 1937, enfin, importante s'il en est, puisqu'on a le tableau, le transport des forces de Fernand Léger au fond tissu. C'est pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas encore, je les invite aussi à aller admirer la félicité du film. La gouvernance de l'électricité devrait inspirer, ou en tout cas nous, modestement, pour rester effectivement à l'échelle de la chair, on va s'inspirer de ce qu'on connaît sur l'histoire de l'électricité et sa gouvernance pour aller réfléchir la structuration de la gouvernance de la politique. Parce que là, James Suskind, dans son livre, c'est très intéressant, il revient aux fondamentaux de la politique. La démocratie, le pouvoir, quelques notions clés et simples, mais qui permettent de comprendre pourquoi, finalement, on a tant de mal à s'entendre et à réguler pour l'instant. Je reviens juste à mon effet d'échelle, c'est que là où avant on avait des sociétés soit régionales à l'échelle d'un pays, on a aujourd'hui des groupes qui sont les GAFA, si on est dans le monde américain, Google, Apple, Facebook, Amazon, mais aussi côté Chine, les BATX pour les intimes, c'est-à-dire Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Ces groupes étant largement plus structurés encore que les Américains, puisqu'aujourd'hui, Alibaba connaît 95% de toutes les données de ses clients. Et ils ont les données bancaires, les données d'État. Vous pouvez, dès aujourd'hui, je ne sais pas si tout le monde le sait dans la salle, moi je l'ai vécu l'année dernière au mois de mai à Shanghai, on peut faire ses courses dans un magasin tout à fait lambda en payant par reconnaissance faciale. Donc ça ouvre de belles perspectives de réflexion, utopie, dystopie, c'est pas moi qui en décide rien, puisque je m'en arrêterai là et je vous remercie pour votre attention. We'll be right back.